MIPIM 2021, Time to Reconnect. Le premier événement permettant à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver et d'échanger à nouveau. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.
Salut à tous, merci d'être avec nous. Voilà, on enchaîne avec cette deuxième et dernière journée du MIPIM versus un MIPIM revu et corrigé. Voilà, nous sommes le 8 septembre 2021. Ici avec une chaleur de plomb, bah, tant mieux, on va pas bouder notre plaisir non plus. On est ravis d'être avec vous. Belle journée hier, vous avez été très nombreux à liker et commenter nos podcasts. Merci, en tout cas, continuez. Et toujours beaucoup de bienveillance dans vos propos, c'est normal. Merci d'être avec nous. Bâtiment optimisé, c'est notre séquence spéciale MIPIM avec Mathieu Rocha, directeur du développement d'Axéo France.
Bonjour.
Ça va Mathieu ?
Ça va, super.
Alors, on est accompagné d'un professionnel qui est un peu, qui va jouer un peu le rôle du grand témoin et qui va nous apporter et nous éclairer de sa longue expérience dans la promotion immobilière. Il est sur notre plateau, Jean-Philippe Bourgade est avec nous. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Bah, très bien, quel beau temps, quel plaisir d'être parmi vous.
Ça me fait super plaisir. Alors, Jean-Philippe Bourgade, directeur général de Faya Promotion.
En effet.
Alors, Faya Promotion, on va en parler bien évidemment, parce qu'on va quand même dire quelques mots. On va se faire un petit peu de pub quand même, pourquoi pas. Alors, l'idée, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire comme jamais on l'a connu. On peut même dire qu'on est sur un empilage de millefeuilles normatifs incroyables. Y voir clair, ça devient vraiment une tannée. Quand on compare, d'ailleurs on en reparlera avec Jean-Philippe tout à l'heure, par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on faisait ce métier, effectivement, c'est d'une complexité aujourd'hui qui pourrait même nous faire penser qu'à la limite, ne construisez plus, quoi. Tu vois, bon, j'exagère un peu. En plus, on a cette année des chiffres qui sont des chiffres quand même pas bons du tout, quoi. Historiquement. On n'a jamais vu un stock de PC, de permis de construire aussi bas, parce que les permis ne sortent pas. Pour l'instant, il y a un peu de stock qui permet aux promoteurs de tenir pendant 2022, peut-être 2023. En tout cas, il y a quelque chose à venir qui ne sent forcément pas très bon, puisque la temporalité d'un promoteur, lorsqu'il aménage, qu'il construit, n'est pas évidente. Mais pour construire, il faut avoir un certain nombre d'éléments. Il faut avoir un certain nombre d'éléments, des études préalables qui permettent en fait d'optimiser la décision, hein, par exemple. Mais on a aussi des dispositifs normatifs qui sont compliqués, comme par exemple la circulaire ZAN, zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, c'est la grande mode. On ne veut plus d'étalement urbain, très clair. Hein, moi, c'est ce que j'entends. Hein, on va essayer d'en parler aussi. Et donc, aujourd'hui, on est condamné en fait à travailler sur le bâti. Alors, le bâti densifié, le bâti réversible, c'est-à-dire que du bureau vers le logement, la possibilité de aussi réintégrer dans la ville, parfois, des problématiques sont liées au patrimoine des immeubles, puisqu'il y a des fois, on ne peut pas déconstruire, parce que l'immeuble il fait partie de la culture, etc., etc. Puis à côté de ça, on a 5 millions de Français, qui sont en attente d'un logement, dont 2,5 millions inscrits sur les listes pour un logement social. Moi, je pose une question aux politiques. On fait comment pour loger les Français, hein, voilà, tout simplement, alors qu'on voit que le stock diminue et que l'offre de logements neufs est très faible. Alors vous avez une particularité, Mathieu, c'était un peu le préambule, c'est que dans ce que vous faites, vous êtes spécialisé en plus en désamiantage. L'amiante, c'est un fléau dans le pays pour construire. Des fois, c'est vraiment une tannée quand on achète un terrain ou quand on requalifie un immeuble. Comment aujourd'hui vous vous positionnez? Vous avez un rayonnement national, vous êtes un bureau d'études très connu. Comment vous positionnez? Et ensuite, j'aimerais qu'on ait un peu le regard du promoteur sur la gestion des risques globaux, finalement, lorsqu'on est promoteur et qu'on prend des risques incroyables.
Bah, tout d'abord, nous, chez Axéo, on est parti du postulat que l'information amiante, en fait, en phase d'acquisition pour les promoteurs, vu qu'on va sur du bâti existant, on va aller sur de la déconstruction de fonciers parfois dégradés, donc de friches industrielles. Donc c'est la désertificialisation des sols qui
nous
amène.
Quand on est dégradé, ça peut même les sols parfois peuvent être un peu pollués.
Ah oui, peuvent être pollués. De toute façon, si la friche est à l'état de friche, c'est qu'il y avait un élément qui ne permettait pas qu'un projet se développe. Et généralement, c'était une question de pollution. Donc l'État a parfois racheté à l'euro symbolique certains sites et un peu dans la panade pour faire sortir ces terrains. Donc ça fait partie des bâtiments qui peuvent faire naître des projets de nouvelles constructions Mais nous, du coup, je disais, chez Axéo, on est parti du postulat où l'information, en fait, est manquante. Quand on parle d'amiante, généralement, on veut le diagnostic complet pour investir. Sauf que le vendeur...
Il est obligatoire, le diagnostic amiante ?
Oui, pour la vente.
Oui, pour la vente, il est obligatoire. Hein.
Ouais. Mais par contre, le diagnostic qui est fourni pour la vente, ce n'est pas du tout le diagnostic avant démolition qui va être réalisé par le promoteur. Et l'écart entre les deux, il est énorme. Donc nous, en fait... on a vu vraiment que c'était un écart vraiment très gros et que le promoteur, du moins l'investisseur, est obligé de budgéter des énormes sommes au cas où, parce que s'il découvre à la fin du projet, ou du moins à la fin de sa période d'acquisition, qu'en fait il y a 5 millions de plus à désamianter, bah, tout le projet tombe à l'eau.
Avant.
Donc c'est énorme. Donc, nombreux sont les promoteurs qui pourraient témoigner à votre micro des mésaventures qu'ils ont connues avec l'amiante.
Ils pourraient acheter un terrain et se retrouver dans l'impossibilité de faire quelque chose avec.
Ouais, impossibilité d'être rentable sur la
non,
sur,
mais
sur
rentable avec un bilan oula, c'est, ouais. C'est, ouais.
Donc nous aujourd'hui chez Axéo on a fait un produit qui s'appelle la due diligence amiante, c'est-à-dire qu'on vient paramétrer, en fait, on vient entourer le risque amiante par une analyse des risques.
Jean-Philippe, vous l'avez déjà vécu, bien sûr.
C'est vrai.
Dans sa globalité, quand toutes ces études préalables, en sachant qu'il y a aussi un rapport à la vitesse, à la proposition de projet, sur des dossiers fonciers, vous n'êtes pas le seul promoteur à monter, comment on fait pour équilibrer, en fait, le fait qu'il faut décider vite pour faire l'affaire, parce qu'il faut avoir du terrain qui est la martingale du foncier pour le promoteur, et en même temps avoir sécurisé les risques. Comment on...
Alors, c'est vraiment un point clé, Sylvain, que tu viens de soulever, que vous venez de soulever. Notre métier, c'est un métier de gestion des risques. Donc, quand tu identifies un potentiel foncier, tu dois connaître au mieux le risque technique, le risque amiante, mais pas que. Tu analyses le risque politique, le risque permis, le risque juridique, le risque commercial. Et tout ça fait une résultante, voir si ton risque financier est adapté à cela. Mais tu as raison, tu ne sais pas tout. Mais si tu attends de tout savoir, bah, tu as perdu le dossier.
Mais c'est comment, ça, c'est ça l'arrêté. À quel moment l'acte de décision bascule. Avec alors, l'expérience que vous avez, à quel moment vous dites, voilà, ou l'illustration d'un dossier peut-être, si c'est possible, de dire, voilà, là, il fallait y aller. Mais c'est aussi un risque structurel pour l'entreprise,
oui,
y compris la partie technique.
Il faut prendre un risque. C'est-à-dire que ton métier va te dire, j'ai estimé la démolition à X, j'ai estimé la dépollution à X, j'ai estimé l'adaptation à X, j'ai estimé le prix de vente à X. Donc quelque part, à un moment donné, tu fais ton bilan, tu consolides avec un degré de fiabilité, mais c'est une prise de risque. Donc quelque part, ta rémunération, ta marge, c'est l'économie, va être en proportion du risque que tu prends. Des fois tu te trompes, bien sûr, des fois tu gagnes, mais c'est là l'expérience, le métier du promoteur. Encore une fois, si tu écoutes tout le monde, tu fais rien. Si tu écoutes le gars qui est démoli, si tu écoutes l'étude commerciale, si tu écoutes ton directeur technique, tu ne fais pas l'affaire. Donc à un moment donné, en tant que patron d'un comité d'investissement, en tant que décideur, tu dois à un moment donné faire la part des choses.
C'est clair.
Voilà. Et c'est vrai, Mathieu a raison, que le risque démolition, puis maintenant le risque rénovation, puis maintenant le risque amiante, toutes ces choses-là ont grandi. La petite difficulté, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent pendant la phase étude, de plus en plus élevé et de plus en plus longtemps. Faut pas oublier que ces sommes investies, ces frais à risque, toute cette période-là financièrement, c'est des frais à risque. C'est-à-dire que tu risques de les perdre. Voilà. Et si
avant
tu les
même
perds,
de conclure l'affaire,
ah, oui, c'est-à-dire
t'as déjà perdu. Voilà.
Toutes les comptes d'exploitation de promoteurs te disent dans l'année, j'ai prévu d'avoir 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de frais à risque perdus. Parce que tu vas étudier et tu vas pas faire, mais tu vas payer tes frais à risque. Et ça va impacter ton résultat de l'année. Donc ça veut dire qu'au regard de ce que tu mises, tu dois espérer, tu dois avoir, dans les années à venir, N plus 1, N plus 2, N plus 3, le chiffre d'affaires qui te permet, quelque part, de fiabiliser le process. Voilà. Et ça, c'est le métier, j'invente rien, c'est quelque chose de classique. Ce qui change, c'est que le montant est plus élevé. Ce qui change, c'est que le paramètre Abiante, Mathieu, vous avez raison, le paramètre analyse de risque, qui était, on va dire, presque insignifiant, ne devient plus insignifiant, qui était marginal, devient important, prépondérant. Et plus tu vas aller dans, dans le centre-ville, dans l'urbain, plus tu vas être dans le rachat de friche, plus ce critère va jouer. Aujourd'hui, les promoteurs maîtrisent plutôt bien le risque permis. Hein,
oui, le risque réglementaire permis.
Ça
s'est amélioré.
Oui, voilà. Non, mais je dirais pas que ça s'est amélioré.
Par exemple, c'est les recours, le traitement des recours. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le délai de traitement des recours s'est considérablement amélioré?
Moi, je dirais la gestion des recours s'est améliorée, n'est pas que le traitement des recours. Les promoteurs ont acquis une certaine compétence à gérer, à discuter, à maîtriser, à mieux préparer leurs dossiers, à les analyser. Voilà. Donc là, il y a d'adaptation. La profession a cette grande capacité d'adaptation. Faut voir dans ce sens-là. Voilà, donc dans cette maîtrise des risques, bien sûr, Mathieu, l'amiante a sa part et je ne doute pas qu'elle reste prépondérante. Nous, dans notre plan stratégique, Faillin Promotion, on a prévu, bien sûr, d'augmenter notre part dans la rénovation, d'avancer, c'est clair.
De toute façon, il n'y a pas de solution, puisqu'on nous dit clairement, enfin, je sais pas, tu as certainement le même retour, les élus disent clairement, c'est fini l'étalement urbain. Voilà. Alors justement, on va reprendre avec vous, Mathieu. Alors Mathieu, Axéo, c'est l'expertise, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
C'est la dimension expert. Vous avez une flopée d'ingénieurs très spécialisés, avec une répartition géographique. On travaille sur des terrains qui sont des terrains très hétérogènes, on est d'accord?
Ouais.
De toute façon, l'immobilier, par nature, est hétérogène.
Ouais.
Est-ce que vos clients tiennent compte réellement de ces aspects-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? C'est vrai que depuis une époque, tu n'es pas tout à fait le cas.
Alors, de plus en plus. Pour rebondir à ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, on voit que pour économiser certains budgets d'études, en fait, au niveau amiante, les promoteurs passaient en direct par les désamianteurs ou par les démolisseurs pour essayer de préchiffrer. Mais vu que l'information amiante défaillante parce que incomplète, en fait, on n'arrivait pas au budget qui sera le budget final. Donc c'est là où nous, on vient intervenir justement pour vraiment créer de la valeur et donc environner vraiment très finement le budget qui sera au final.
Votre boulot, c'est de sécuriser la décision finale.
Tout simplement. C'est sécuriser le promoteur. Non,
on peut se parler franchement.
Oui.
Est-ce que ça vous est arrivé de dire à votre client, c'est pas évident, hein? Ne faites pas cette affaire.
Alors non, jamais, parce qu'en fait,
elle est morte, c'est pas bon. Le prix de sortie sera pas bon, vous allez gagner zéro.
Non, c'est pas mon rôle, c'est là où moi je reste à ma place.
D'accord.
Moi, il me mandate.
Vous n'allez pas jusque-là?
Non. Mon seul avis, c'est de lui dire combien ça coûte, combien ça va coûter et comment je peux l'enlever. Après, c'est lui qui prend son risque financier ou pas. J'ai qu'un avis technique.
D'accord. Donc, on est là. Est-ce que vous avez une obligation de résultat?
Alors, c'est compliqué parce que c'est pas normé, c'est pas réglementaire tout ce que je, tout ce que je fais.
Je m'explique. Vous désamiantez, vous donnez un avis sur l'amiante, on est d'accord?
Oui.
Ok. Vous vous trompez pas?
Non.
D'accord. Donc quand vous restituez une information sur un dossier aussi sensible que l'amiante, parce que c'est franchement ultra sensible, hein, on parle de santé publique quand même, hein, on parle pas d'un truc anodin, hein, d'accord? On parle pas d'un risque financier, on parle d'un risque de santé publique. Vous vous trompez pas?
Non.
Hein, on est d'accord. Donc voilà, vous dites voilà, il y a ça à faire, voilà mon avis, voilà combien ça va coûter, et après c'est vous in fine qui devez décider.
C'est ça.
Et l'impacter. Jean-Philippe?
Oui.
Quand tu vois par exemple ce type de démarche, alors je ne sais pas si tu avais déjà fait des études des amiantes, certainement oui.
Ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver. La somme des risques mis bout à bout, on a bien compris effectivement que ça devenait quand même de plus en plus compliqué. Est-ce que des terrains comme ceux-là par exemple, le fait qu'aujourd'hui on est sur de la ZAN et donc on essaie de limiter, ça va être de plus en plus le cas, et donc forcément ces experts deviennent une partie prenante en fait, du compte d'exploitation et du bilan de promotion.
Alors, je ne dirais pas une partie prenante, là tu vas
je suis
un peu fort.
Ouais.
ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que je t'ai dit, c'est dynamique. C'est-à-dire que l'analyse des risques, elle ne s'est pas à un moment donné, et après on arrête. C'est-à-dire que dans le processus, dès l'identification du potentiel. Tu as des outils d'information, de data, qui te permettent de dire déjà, est-ce que c'est archéologique, est-ce que c'est pas archéologique. Donc, il y a des éléments physiques que tu es capable d'interpréter avant la signature de l'accord foncier. Et puis après, de l'accord foncier à la promesse de vente, tu commences déjà à cerner tes risques, tu commences déjà à quantifier, tu commences déjà à prendre des hypothèses. Ces hypothèses, entre le moment où tu as cerné ta promesse de vente, t'as verrouillé ton accord foncier, au moment où tu achètes, eh ben, le travail n'est pas fini. Le projet va évoluer, le projet va s'affiner, l'analyse des risques va continuer jusqu'au moment de l'acquisition. Donc il est possible que des choses apparaissent que tu n'avais pas vues, et ça m'est déjà arrivé, malgré les précautions, qui remettent complètement en cause.
Et tu te retrouves avec un stock foncier finalement.
Alors, avant acquisition.
Donc tu
prends un write-off de frais.
Donc tu te désengages.
Oui.
C'est ça. Ouais. Tu te désengages.
Ouais. Ou plus couramment, tu réévalues, c'est-à-dire que tu renégocies.
Oui, voilà. Ah non, mais il faut être très clair.
Voilà.
Vous oubliez 100, il y a trop de risques. Moi, je peux vous proposer 80 et voilà, vous prenez pas.
Bon, alors, voilà.
Comment tu fais pour gérer le fait que quand tu es sur une affaire, bah, vous êtes très nombreux, les promoteurs. Aller vite, non ?
Mais Sylvain, ça s'appelle « Il était une fois à l'immobilier », c'est ce que tu me racontes. c'était valable il y a 20 ans, c'est valable toujours, et c'est ça la vie. Mais c'est dans tous les métiers.
Non, parce que pour analyser les risques, pour prendre pour faire ça, en sachant que tu es quand même soumis à une pression qui est celle de l'acquisition en elle-même, par rapport au fait qu'il y a quand même peu de disponibilité foncière et que tout le monde se jette sur les mêmes affaires...
Mais ça a toujours, la concurrence a toujours existé. Il faut toujours aller vite, il faut connaître son métier. Ouais. Après, chaque groupe a des stratégies plus ou moins affinées sur tel ou tel territoire. Mais si tu veux, l'analyse des risques, elle a toujours existé. Alors, ce qui se passe, c'est que peut-être que les gens prennent plus des positions rapidement, peut-être en ne connaissant pas tous les risques, quitte à les étudier par la suite. C'est possible que ça se fait. C'est certains groupes, mais d'autres ne le font pas.
D'accord.
Voilà.
C'est vraiment une méthodologie que chacun intègre dans son permis, notamment aussi sur la cession de permis purgé, par exemple, ou le permis tout court, qui est aussi un aspect du métier. Je vais revenir à la technique. L'amiante, pendant très longtemps, on l'a un peu mis de côté, parce qu'effectivement, ça a rendu des services... Parce que la prise de conscience collective sur les risques de santé publique n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire, Mathieu, ça concerne quel volume ? Est-ce qu'on a des idées ou pas ? Ou c'est considérable comme marché ?
En fait, il y avait une étude qui était sortie il y a 5 ans qui disait qu'il y avait encore 100 ans de boulot de désamiantage.
Wow.
Parler de volume, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais et là, aujourd'hui, on parle d'amiante, mais demain, on parlera peut-être des fibres réfractaires, on parlera aujourd'hui, et l'amiante c'est que sur un certain type de fibres, ouais. On ne parle pas des fibres courtes,
ouais.
Enfin, en fait, on ne sait pas encore demain comment ça va évoluer.
Je vais donner un exemple, l'histoire a retenu une chose que la modernité et la science a démontré, c'est par exemple l'impact du plomb. Vous voyez, on a fait une étude comparative, moi j'aime bien travailler sur l'histoire parce que c'est important de savoir d'où on vient, au 19e siècle on faisait les structures en plomb, les tuyaux en plomb. Et on a comparé ça avec, par exemple, l'évolution des risques de saturnisme qui touchent les enfants, par exemple. Et en fait, on l'a comparé. Et c'est intéressant. Plus ça s'est amélioré, c'est-à-dire plus on est allé vers le moins de plomb jusqu'à plus de plomb du tout, et plus le risque de saturnisme a réduit jusqu'à disparaître. Mmh. On voit réapparaître des maladies qu'on croyait éradiquées, etc., mais notamment sur le saturnisme. Alors le saturnisme, je vous le dis les amis, le plomb a une incidence en fait sur les enfants qui en fait ralentit la croissance et aussi l'équilibre cérébral. À l'époque, ce qu'on appelait le saturnisme, c'est les personnes qu'on appelait des simplets qui étaient un peu retardées, qui avaient ce qu'on appelle un retard mental. Et ça, c'était gravissime. Non mais ce qui est intéressant, j'essaie de regrouper, c'est que on parle de plus en plus d'immobilier comme un impact, ayant un impact sur la santé collective. Enfin, je sais pas, moi je suis quand même depuis 30 ans dans le métier, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Hein.
Oui. Alors,
La qualité de l'air par exemple, on n'en parlait pas. Non mais l'air intérieur, par exemple, on n'en parlait pas. On parlait de calfeutré, etc., mais on ne disait pas que le problème de calfeutré ou de surprotégé crée des problématiques de condensation, par exemple, qui favorisent les maladies cardio-respiratoires, par exemple, chose qu'on ne savait pas. Et l'amiante a suivi exactement le même moment. Mmh. Parce que c'était la martingale, hein, l'amiante, à une époque, hein, Jean-Philippe.
Oui.
On en mettait partout.
Ouais. Oui. Les toitures fibro-amiantes,
ouais,
il y en a partout. Ouais.
Mais ça ne fait pas un peu peur quand on dit qu'il y a l'équivalent d'un siècle de désamiantage devant, là ?
Écoute, je pense que dans le métier, on parlait de risque, la pire de choses, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est pas connaître son risque. Donc, ce que tu dis, c'est, y a-t-il une source de pollution, une source inconnue qui viendrait impacter la santé? Ça, je ne peux pas te répondre là-dessus. C'est pas de ma compétence. Mais à partir du moment où on sait ce qu'on cherche, on cherche un risque amiante, on cherche un risque pollution des sols, on sait le maîtriser. Donc, il faut pas non plus, se prendre la tête là-dessus. On sait gérer.
Oui, bien sûr,
on sait gérer ces risques. Le pire, ce que je te dis, c'est pas connaître le risque.
Ouais,
hein, quand tu arbitres ce que tu soulevais, une opération à prendre, c'est si tu ne sais pas. Le pire pour moi, c'est le risque archéologique.
Oui,
parce que l'archéologie, ça peut te rendre. Si tu achètes ton terrain et que
tu trouves, par exemple, une amphore avec un truc.
Oui, c'est-à-dire que tu peux avoir une servitude sur ton terrain qui te le rend inconstructible. Tu ne le sais pas. C'est une incertitude. Tu ne peux pas dire ça me coûtera tant, ça va te dire ça te coûtera ton opération. Mais tu as acheté le terrain. Ça, c'est un vrai problème. C'est une incertitude.
Ça, tu le sais jamais, ça.
Bah, tu peux le savoir, puis faire les fouilles. Tu sais, c'est toujours pareil. Tu fais
les études.
Il faut faire les fouilles archéo avant. Mais les fouilles archéo, c'est cher.
Vous en faites chez Axéo des fouilles archéo?
Non.
C'est un métier cadré administrativement.
Il y a un organisme d'ailleurs public qui contrôle.
C'est cerné. Mais ce que je veux te dire, c'est que
ça t'est déjà arrivé.
Moi, oui, mais j'ai fait marche arrière. Moi, oui. Moi, je préfère ne pas faire là que de prendre le risque.
T'es arrivé, t'as trouvé des trucs.
Non, je suis parti, j'ai pas fait. Et celui qui est arrivé derrière moi, qui a pris le risque, il aurait mieux fait de faire comme moi. Voilà. Mais c'est la vie, j'ai fait aussi des bêtises. Hein,
Après, il y a d'autres risques encore. Il y a le risque aussi de trouver des bombes, il y a tout ça.
Oui.
Alors, question.
Excuse-moi, ouais, mais pardon, des bombes, ouais. J'ai eu un cas des bombes, un joueur pour Chartrain, des mini-bombes, et les bombes, il faut savoir que ce n'est pas considéré comme de la pollution. Donc tu as.
On appelle ça de la pollution pyrotechnique quand même, mais c'est pas de la pollution.
C'est quand vous faites une condition suspensive dans une promesse, vous dites.
Mais t'en fais quoi de ces bombes là?
Ah bah là c'est compliqué là.
Mais quand tu tombes dessus.
Bah t'appelles.
Les mineurs.
T'appelles. T'appelles
après, il y a
ça t'est déjà arrivé?
Il y a des sociétés qui existent qui font ces études préalables, parce qu'aujourd'hui l'information elle est disponible. Aujourd'hui il y a des bénévoles qui savent exactement. Quel appareil en 40 a bombardé, combien de bombes, etc. Il y a des relevés qui sont effectués. Nous, on a eu le cas un jour, on nous a mandaté pour un conseil avant acquisition. Et donc, dans l'étude historique, on s'est aperçu qu'en fait, le bâtiment avait été bombardé en 45 parce qu'occupé par les Allemands. Et il y avait une toiture fibro-ciment. Et donc, naturellement, avec l'étude historique, on s'est rendu compte qu'en fait, rien n'avait été fait sur le terrain et que possiblement, d'ailleurs sûrement sur le terrain, avec le foisonnement, le temps, en fait le terrain a des débris d'amiante dans le terrain. Donc ça va se découvrir lors du terrassement.
Mais oui, c'est important ce que tu dis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, vous êtes au point pour bien identifier l'amiante? Aujourd'hui, oui. La méthodologie, elle est éprouvée, ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire, hein, on est d'accord.
Oui, aujourd'hui, c'est une analyse qui permet
Quand tu montes sur une mission, tu es capable de dresser le portrait, de faire le bilan, en disant voilà, et de restituer, en fait, ton étude à ton client. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, je suis promoteur, t'es un élément essentiel dans mon processus de construction.
Ouais.
Global, hein.
Dans l'analyse des risques.
Parce que ce qui est bien, les amis, écoutez bien, c'est que ce que nous dit Jean-Philippe, en fait, c'est qu'il y a une vision globale, qui est une vision de l'entrepreneur, qui est une vision du promoteur. Il intègre, il est polytechnicien, il fait de la polydiscipline.
Oui. J'étais pas au courant que j'étais polytechnicien,
tu fais du juridique, tu fais du commercial, ouais. Tu fais du technique, ça s'appelle de la polytechnique.
On dit souvent que le promoteur est un chef d'orchestre.
Hein. Absolument. Voilà. C'est une polytechnicité, ou alors une compétence, c'est de savoir utiliser celle des autres dans des aspects et des disciplines techniques. Parce qu'in fine, tu as dit une chose très juste, et c'est quelque chose qui est parfois dur à vivre, c'est qu'in fine, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Et que l'acte des décisions, parfois, s'oppose à l'expertise, s'oppose à des personnes, parce que si tu les écoutes, t'écoutes ton banquier, t'écoutes... ils te disent, non, fais pas. Parce que le risque zéro n'existe pas, on est d'accord là-dessus.
Bah oui, sinon on n'aurait pas besoin de nous. Hein.
Bah c'est clair.
Voilà, donc il faut arriver. Alors je reviendrai sur la tendance que tu as soulevée au départ. Tu disais, attention, on va avec Lausanne, on va vers beaucoup plus de restructuration, rénovation, plus ou moins lourd de terrain.
C'est compliqué de construire avec Lausanne. Hein.
Oui, alors ce qui est important, c'est aujourd'hui, à mon avis, c'est aussi la récupération des matériaux. De plus en plus, les pouvoirs publics, l'innovation, l'impact citoyen que nous sommes, hein, pour la préservation de la planète, nous recommande de récupérer le maximum de matériaux. Donc je pense aujourd'hui que ça, c'est un axe. Chez Faya Promotion, on a une plateforme de récupération de matériaux. Donc en fait, quand tu analyses la démolition, maintenant tu n'analyses plus que l'amiante, mais tu analyses ce plancher, je le récupère, cette poutre, je la récupère pas.
C'est bon, ça.
Ce truc, oui, ce truc-là, non. Et ça, c'est une sacrée expertise.
Alors,
je dirais que les gens qui sont capables de ça, bah aujourd'hui, moi, je pense que c'est un des créneaux d'avenir.
Ouais, et ça, c'est très porteur parce que c'est économiquement responsable. On est en plein rang RSE. Et on est sur du développement durable avec la récupération, comme l'utilisation des remblais, par exemple. Moi, j'avais vu un bâtiment qui avait été construit avec la terre. Il y avait une briqueterie à côté. On utilisait la terre pour faire la briqueterie en économie circulaire. Ouais. J'ai trouvé ça aussi remarquable. Si on veut savoir plus pour Axéo, on va sur le site d'Axéo, bien évidemment.
Ouais.
Le risque d'amiante est un risque réel. J'encourage et on encourage la profession à vous solliciter, c'est normal, pour pouvoir aller vers ce processus de décision. Voilà, 27 minutes, on a dépassé de 2 minutes. Merci en tout cas pour cette spéciale bâtiment optimisé en direct du Palais des Festivals pour le MIPIM. Merci Mathieu Rochat,
directeur de
développement, spécialiste de l'amiante. Et bien sûr aussi, un grand merci à Jean-Philippe Bourgade d'avoir accepté de passer par le plateau, directeur général de Faya Promotion. Il faut qu'on se revoie dans nos studios à Paris, Jean-Philippe.
Ok Sylvain, merci, voilà. Merci de votre accueil.
Voilà. Toujours pareil, on récupère le podcast sur les agrégateurs qui vont bien et on se retrouve pour la suite de nos programmes. À tout de suite.
MIPIM 2021, Time to Reconnect. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.